Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos de la Microsoft Virtual Academy intitulée Windows 10, quoi de neuf pour les développeurs. Je m'appelle Alex Danville, je suis Technical Evangelist chez Microsoft, avec comme sujet de prédilection l'Internet of Things et puis le cross-platform. Mon rôle chez Microsoft est d'accompagner tous ceux qui veulent créer des solutions sur nos plateformes, faire en sorte qu'ils aient la meilleure expérience possible, leur expliquer quelles sont les possibilités, où est-ce que Microsoft va sur tel ou tel domaine, et faire en sorte qu'ils aient la possibilité de créer les meilleures solutions possibles, les plus pertinentes et le plus vite possible. Alors vous pouvez bien sûr me retrouver sur mon blog danvi.tv et puis interagir avec moi sur Twitter. J'aurai grand plaisir à tenir compte de vos feedbacks et à préciser un certain nombre de choses que je n'aurais pas dites éventuellement dans ces vidéos. Pour suivre cette vidéo et pouvoir refaire l'exercice chez vous tranquillement, il vous faudra un PC avec Windows 10 Technical Preview en build minimum 10041. J'utiliserai personnellement la version 10061. Il vous faudra aussi le Visual Studio 2015 Technical Preview en version 6, donc c'est la sixième CTP comme on dit. Et puis enfin, il faut rajouter par-dessus cela les Windows 10 Technical Preview Tools qui vous permettront d'avoir accès au SDK complet de Windows 10. Enfin, sachez que comme nous irons assez vite sur certaines parties, il faudra savoir un peu manipuler Visual Studio et puis avoir des connaissances en C Sharp XAML. Vous retrouverez d'ailleurs des cours dédiés à ces deux sujets sur la Microsoft Virtual Academy, donc n'hésitez pas à faire en préalable à cette série de vidéos dédiées à Windows 10 des cours sur la partie Visual Studio C Sharp XAML. Dans cette série Windows 10, quoi de neuf pour les développeurs, toujours décomposée en 6 modules, nous avons déjà vu le premier module dédié à la plateforme et à ses outils. Ensuite, nous avons abordé l'anatomie d'une application, comment est-ce qu'on crée une application, de quoi elle était constituée. Nous allons maintenant passer aux nouveaux contrôles qui sont mis à notre disposition pour créer des applications. Donc, bienvenue dans ce troisième module. Ce module sera exclusivement consacré à des démonstrations et à du code. Donc, nous allons commencer dès maintenant avec le nouveau contrôle pivot qui a été mis à notre disposition. Nous voici dans Visual Studio 2015 avec le projet Windys Demo ouvert, ce projet que vous avez récupéré sur GitHub. Donc, ce projet donc est organisé autour du fait que chaque page illustre une fonctionnalité précise. Donc là, comme nous devons voir la partie pivot, eh bien nous avons une page qui s'appelle Pivot View, donc la page dédiée au pivot. Alors, ce pivot, voici l'XAML, mais avant toute chose, voyons à quoi il ressemble lors d'exécution. Donc là, je vais lancer l'application en elle-même, la voici. Chaque section de la démo est exposée ici dans une Split View. Donc la partie pivote est là. Voilà à quoi ça ressemble. Alors vous noterez que je n'ai pas tout misé sur la partie design. Je ferai appel pour cela à mon ami Michel Rousseau de l'équipe DX France, qui, je pense, mettra un petit peu de peinture par-dessus tout ça le moment venu. Mais l'essentiel est le contrôle lui-même. Donc en fait, il est décomposé comme ceci. Vous avez ici un titre que nous pourrons indiquer pour le contrôle, et puis différentes sections. Vous remarquerez que ça ressemble étrangement à ce que nous avons sur Windows Phone depuis les tout débuts de cet operating system, et on le retrouve maintenant sur Windows. Donc ça laisse aussi la possibilité d'avoir des expériences différentes sous Windows comparé à ce qu'on avait précédemment, mais surtout, ça laisse la possibilité d'avoir une expérience unifiée, quel que soit le type d'appareil, que ce soit sur smartphone ou tablette. Donc c'est toujours des possibilités supplémentaires pour laisser s'exprimer nos talents de designer. Donc voici comment ça se compose, différents panneaux, chacune contient un contenu. Donc ici le wow, le fantastique en deuxième et puis le awesome en troisième. Donc voyons maintenant comment créer ce type de contrôle. Donc, nous voici devant le source XAML. Donc, c'est vraiment extrêmement simple. On a un nouveau type de contrôle de type pivot. Et puis, parmi ces propriétés, vous voyez qu'il y a une notion de title qui correspond au titre que j'ai donné tout à l'heure. Donc ici, je vais indiquer par exemple, pour que vous voyez que ça se modifie vraiment, bienvenue dans MBA. À noter que on peut totalement personnaliser les headers, donc les titres des différentes sections du pivot. Ici, par exemple, j'ai surchargé la partie header template du pivot. Et ce header template est un data template. Et j'ai fait en sorte qu'il soit composé d'un text block, qui soit bindé automatiquement donc au titre de la section. Et puis regardez, j'ai poussé un petit peu la provocation jusqu'à mettre une police un peu grande et une couleur rouge. Enfin, rien ne vous empêche de mettre exactement ce que vous voulez. Peut-être quelque chose de plus esthétique. Il n'y a pas de problème. Donc voilà pour la customisation du header à proprement parler. Et ensuite, les différentes sections se créent vraiment très simplement. Ici, j'ai créé une section Pivot Item avec comme texte First. Donc on va mettre par exemple nos différents modules MBA ici. Et puis notez que le contenu d'un pivot item est totalement libre. Ici j'ai mis un text block, mais je pourrais très bien mettre ici par exemple un stack panel par exemple pour m'organiser. Et puis je vais rajouter un autre text block. Voilà. Génial. Voilà. En gros, ici, je suis totalement libre, donc je peux m'organiser, mettre, pourquoi pas, des contrôles personnalisés, mettre le contenu que je souhaite. Il n'y a aucun problème. Et puis, le reste est bien sûr totalement équivalent. Notez ici que j'ai volontairement forcé le changement de la couleur du header. Si vous voulez aller plus loin dans la customisation, il n'y a bien sûr aucun problème pour redéfinir le style complet du contrôle. Dans ces cas-là, ce que je vous suggérerais, c'est d'utiliser Blend pour partir du style par défaut et puis de le customiser comme vous le souhaitez. Vous savez que XAML dispose d'une puissance vraiment phénoménale à ce niveau-là. Vous pouvez complètement changer l'apparence d'un contrôle de base et faire en sorte qu'il corresponde exactement aux besoins que vous avez. Donc voilà pour le pivot item. Vous noterez que pour faire cela, j'ai eu besoin d'aucune ligne de code. D'accord? Mais le pivot item me permet bien sûr de répondre à l'ensemble d'événements type l'utilisateur a cliqué sur un item particulier du pivot, il a fait en sorte de passer d'un pivot à l'autre, donc je suis averti et je peux par exemple charger le contenu d'un item à partir du moment où celle-ci devient active. Et voyons les quelques modifications que j'ai faites à l'écran. Donc logiquement, je vais avoir ici un bienvenue dans MBA qui va s'indiquer en tant que titre. Et puis mon contrôle devrait être en gris ici. Voilà. Donc aucun problème, c'est vraiment un contrôle très sympathique que je vous invite à utiliser dans vos applications. Deuxième démonstration, la calendar view, donc un nouveau contrôle de calendrier. Toujours dans Visual Studio 2015 et avec notre projet Windis Demo, nous allons voir maintenant le calendar view. Donc, il y a une page dédiée à cela dans le projet, ici calendar view. Cette page est organisée avec un pivot que nous avons vu précédemment et chaque item du pivot montrera un calendar view avec un affichage particulier. Donc, ce calendar view, nous allons voir à quoi il ressemble. Voilà ici donc le pivot avec les différents items et puis le fameux calendar view. Donc on a une vue à la décade. Alors faites attention au problème de traduction. Une décade en France, ça décrit généralement un cycle de 10 jours. Ici, on pense en 10 années. Donc voilà un affichage où l'on voit des années et qui nous permettent ensuite de descendre à l'intérieur de cette année pour accéder au mois. Et ensuite, lorsque nous sommes au mois, on peut très bien aller voir une date précisément. Et puis on a une vue aussi qui est donc à l'année, donc vue intermédiaire, celle au mois, ici. Et puis on peut très bien customiser l'affichage de ce contrôle. Ici par exemple, vous voyez avec un jeu de couleurs qui pourrait correspondre à des besoins métiers particuliers. J'ai toujours la possibilité de naviguer bien sûr dans ce contrôle. Pourquoi pas ici de revenir en arrière. Donc ce qui me ramène à la vue finalement que l'on a ici par décade. Voilà. Voyons maintenant comment on fait pour que nous puissions nous-mêmes créer ce contrôle. Donc c'est extrêmement simple. Ici, dans cette vue, donc à l'intérieur du pivot item, j'ai créé un calendar view et je lui ai simplement précisé sa propriété display mode. Donc display mode est une énumération qui prend pour valeur décade, year ou month ici. Donc vraiment quelque chose d'extrêmement simple, vous paramétrez l'affichage par défaut de ce calendrier. À noter que ce calendrier, de fait, est disponible sur l'ensemble des plateformes ciblées. Donc, ce qui va être vraiment très très pratique. Regardez ici, la vue custom est un peu plus intéressante, puisque cette fois-ci, j'ai toujours utilisé le mode display month, mais je vais faire en sorte de paramétrer un petit peu son affichage. Donc typiquement, j'ai demandé à ce que l'arrière-plan des items du calendrier s'affiche avec une espèce de violet, et puis que la police de caractère utilisée soit en blanc. Pareil, je peux changer la taille de la fonte, ici avec une taille 20, et puis je veux changer la police, l'affichage de la police du jour courant. Donc là, j'ai demandé à l'afficher en bleu. Même chose, je peux définir quelle sera la couleur de l'item sélectionné, et ainsi de suite. J'ai quelques fonctionnalités un peu plus métier. Ici, par exemple, je veux indiquer que la date du jour soit représentée de façon différente, donc particulièrement soulignée pour la repérer et la retrouver très rapidement dans mon calendrier. Je peux bien sûr adapter les fonctionnalités internationales. Ici, en l'occurrence, ce que je souhaite faire, c'est faire en sorte que le jour de la semaine commence par un lundi. Et non pas un dimanche comme dans certains autres pays, mais enfin je vais pouvoir l'ajuster comme je souhaite en fonction des besoins de métier de mon application. Pareil, je peux définir une fourchette de dates qui rendront la sélection de dates possible. Et là, en l'occurrence, quand je serai en dehors de ce scope, je souhaiterais avoir un affichage assez différent. Donc par exemple en gris pour souligner le fait que cette date ne serait pas sélectionnable. Donc ici, par exemple, voilà, j'indique le out of scope background pour dire qu'il sera en gris et le out of scope foreground en white. Troisième démonstration, le map control. Toujours dans Visual Studio 2015 et avec notre projet Windys Demo, nous allons maintenant voir le map control. Alors, il y a bien sûr une page dédiée à cela dans le projet. Comme ceci, et puis voyons à quoi ressemble notre exemple actuellement. Donc le map control, le voici. Ici j'ai une carte qui est centrée autour de Paris. J'ai un certain nombre de fonctionnalités qui sont disponibles, comme par exemple le style que je souhaite voir appliquer, le zoom éventuellement qui m'intéresse. Et puis savoir est-ce que je veux voir afficher le trafic. Est-ce que je souhaite qu'il me localise? Donc là, par exemple, je fais en sorte d'afficher le trafic, de dire où est-ce que je suis, et noter avec attention cette boîte de dialogue qui vient de s'afficher. En fait, cette fois-ci, Windows me demande s'il souhaite que je laisse l'application Windows 10 SDK Demo accéder à l'emplacement auquel je suis, à cette information. Donc là, je vais lui répondre oui et je vais vous expliquer un petit peu ensuite qu'est-ce qu'il y a derrière cette boîte de dialogue. Donc là, je vais dire oui. Notez que la carte maintenant affiche l'ensemble du trafic. Donc ça se passe plutôt bien du côté de Microsoft France qui se situe ici, les Moulineaux, justement. Et puis, bien sûr, j'ai des possibilités pour ajouter des éléments sur l'affichage. Ici, par exemple, un petit logo Windows. Ici. Je vais pouvoir, alors si je zoome un petit peu, afficher un polygone que voici. Alors je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour développer ce type de fonctionnalité avec le map control. Alors avant toute chose, il était bien sûr possible de réaliser des applications qui utilisaient un contrôle de cartographie avec Windows Phone ou avec Windows, ça, il n'y avait aucun problème. Maintenant, c'était à l'aide d'un contrôle qui s'ajoutait, qui n'était pas forcément toujours cohérent entre les différentes plateformes. Cette fois-ci, ça a été remis vraiment d'aplomb. On a le même contrôle qui va s'exécuter sur les différentes plateformes et avec un ensemble de fonctionnalités qui est assez riche. Donc ici, voilà comment se décompose mon écran. Donc j'ai un stack panel pour stocker l'ensemble des boutons qui permettent de contrôler l'affichage de mon Mac, de mon map control. Et puis j'ai le fameux map control. Alors notez qu'il est dans un namespace particulier. Donc j'ai rajouté une référence à ce namespace ici dans l'entête de mon XAML. Donc voilà comment j'utilise. Je définis un nom raccourci que je vais utiliser donc dans mon code XAML en tant que préfixe. Et puis ici un using vraiment de l'espace de nom qui m'intéresse. Donc voici mon map control. Je lui ai simplement donné un nom et un emplacement dans la grille. Donc pour l'instant, je n'ai pas fait grand-chose. Voyons le code qu'il y a derrière. Donc le code ici est relativement simple. J'ai défini que au chargement de la carte, j'effectuerai un certain nombre d'opérations. Ici en l'occurrence, j'ai la possibilité de centrer ma carte. Donc je lui ai donné comme point géographique sensiblement l'emplacement d'ici les Moulineaux. Et puis on peut indiquer un niveau de zoom, donc ce qui me permettra d'être plus ou moins proche des détails de la carte. Alors il est à noter que certaines fonctionnalités du Map Control vont devoir s'utiliser avec un token qui nous permettra de faire appel à des API étendues de la carte. Pour cela, vous devez vous enregistrer. Alors je vous ai mis un lien ici dans le code source, donc n'hésitez pas à y aller. Vous verrez ensuite le détail pour obtenir ce token et faire en sorte d'accéder à tous ces services. Donc, regardez ici une des nouveautés qui est assez importante. Souvenez-vous, lorsque j'ai demandé à être localisé sur la carte, automatiquement, j'ai eu une boîte de dialogue qui m'a demandé si j'étais d'accord ou pas pour laisser cette application accéder à ma localisation. Alors en fait, précédemment, ça reposait sur une sorte de contrat de confiance entre le développeur et l'utilisateur, où le développeur s'engageait à n'utiliser les coordonnées de géolocalisation que si l'utilisateur donnait son consentement. Ça se passait de la façon suivante. Lorsque nous étions dans l'application, le développeur indiquait dans son manifeste qu'il souhaitait accéder à la localisation, et c'est toujours la même chose aujourd'hui. Toutefois, c'était à lui ensuite de créer l'interface utilisateur qui allait permettre de demander à l'utilisateur final s'il était d'accord ou pas, et en fonction du consentement, il décidait d'accéder ou pas à l'API. Là, changement d'orientation, on va faire en sorte de demander au système l'accès. Donc ici, la première ligne du géolocateur qui est le Request Access Async. Donc une méthode asynchrone qui nous permet de demander cette autorisation. À partir du moment où cette méthode nous renvoie ici un allowed, c'est-à-dire que l'utilisateur a donné son consentement, je vais pouvoir accéder automatiquement à toutes les API qui me permettront de géolocaliser mon utilisateur. Si l'utilisateur avait indiqué non, à ce moment-là, j'aurais dû à chaque fois tester si j'ai accès ou pas. Et ne pas appeler les API en question, sinon elle me renverrait elle-même un message d'erreur. Donc quelque chose de beaucoup plus propre, puisqu'on laisse au système d'exploitation la main finalement, et l'utilisateur pourra organiser ça comme il le veut. Alors voyons comment est-ce que le système d'exploitation organise cela pour l'utilisateur. Donc je vais ici aller chercher dans les settings la partie location. Donc voilà comment s'organise cet écran, donc dans la section privacy des settings. Je vais tout d'abord donner une indication globale. Est-ce que je souhaite ou non que le système d'exploitation et ses applications puissent me géolocaliser? Là, j'ai dit oui. Mais alors, là où ça va devenir intéressant, c'est que je vais pouvoir le faire application par application. Et on voit que la dernière application qui a fait cette demande est le Windows 10 SDK Demo, notre application en l'occurrence, sur lequel j'avais répondu oui, donc il est bien on. Donc l'utilisateur peut très bien revenir en arrière et se dire finalement, je ne veux pas donner le droit à cette application la possibilité de me localiser. Donc dans ces cas-là, il faut bien penser à tester dans son code si oui ou non j'ai la possibilité de faire appel à cette information. Alors comment ça se passerait la fois suivante, puisque là j'ai dit oui. Donc quand je vais appeler cette méthode requestAccessAsync, elle n'affichera pas de boîte de dialogue si l'utilisateur a répondu, et elle me donnera immédiatement le statut allowed, et donc ce qui permettra à mon code de s'exécuter normalement. Alors je pourrais aussi faire en sorte, en fonction de du retour de cette méthode, d'afficher ou non les settings de localisation pour inciter l'utilisateur à m'autoriser ou à autoriser mon application à le localiser. Alors le bouton Find Me pour trouver l'utilisateur est vraiment extrêmement simple. J'ai toujours le même pattern. Au cas où, je demande le consentement de l'utilisateur, si j'ai bien le droit. À ce moment-là, j'effectue mon code. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à reproduire systématiquement. Donc j'utilise un géolocateur. Ce n'est pas directement lié au map control, mais enfin, on voit bien la relation entre l'un et l'autre. En l'occurrence, je dis, écoute, je veux être localisé avec une précision par défaut, donc rien d'extravagant ici. Je vais obtenir la position ici grâce à mon locator. Et puis ensuite, je vais demander au contrôle de carte d'essayer de s'afficher aux coordonnées en question avec un zoom de 10. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail de chacune des fonctionnalités de ce contrôle. Sachez qu'elles sont nombreuses, qu'elles correspondent à peu près à ce qu'il y avait avant, mais avec vraiment le bénéfice d'un contrôle natif intégré dans la plateforme, disponible sur l'ensemble des devices. Et ça, c'est vraiment une très grande force. Vous voyez, par exemple, ici, pour afficher l'état du trafic, rien de plus simple, j'ai simplement basculé le statut visible de ici la propriété Traffic Workflow Visible. Je le mets à True ou False. Ici, par exemple, ça c'est le style de carte que je souhaite afficher. Donc vous voyez les différents styles de cartes disponibles par défaut, sans effort particulier. Alors à noter que les cartes disponibles dans ce contrôle peuvent être téléchargées et utilisées localement. Donc ça, c'est vraiment un grand bénéfice parce que vous allez pouvoir inciter l'utilisateur à télécharger des cartes et à faire en sorte que votre application soit utilisable même hors connexion. Alors imaginez les bénéfices. Bien sûr, je peux accéder à la carte où que je sois, dans un avion, dans le métro ou autre. Et puis, je vais aussi faire des économies puisque je n'aurai pas de trafic de données lorsque je serai sur la route. Donc c'est vraiment hyper sympathique. Ici, pour ajouter une icône, rien de plus simple, je crée une map icône ici. Cette map icône, je lui indique à quel endroit je veux la positionner. Là, en l'occurrence, puisque c'est un fonctionnement assez interactif, je lui demande de se positionner au centre de la carte. Et puis l'image en question, alors là, une petite particularité, je vais utiliser une image stream. Une icon stream, pardon. Donc c'est une référence ici à une référence stream qui se trouve un peu plus haut, que j'ai définie lors de la création de mon objet. Donc ici, vous voyez, icon stream qui correspond à une random access stream référence qui va chercher ici une des images que j'ai dans mon projet, dans les assets. Cette image, la small logo blue, vous la retrouverez ici dans les assets et pourrez l'utiliser sans problème. Ici, small logo blue. C'est le petit logo Windows Blue. Alors, il y a de très nombreuses fonctionnalités qu'on pourrait passer en revue sur ce contrôle. Une dernière que je souhaitais vous montrer, c'est sur la partie affichage d'éléments supplémentaires sur la carte, typiquement un polygone. Donc là, c'est relativement simple, mais il y a quand même quelques astuces à avoir en tête. Donc ici, par exemple, Je vais définir à quelle latitude et longitude je vais afficher. Donc là, je récupère la longitude du centre du contrôle map avec cette méthode. Donc je fais un maps.center.position et puis je vais récupérer la latitude et la longitude. Ensuite, je crée un map polygone et ce map polygone, je vais définir en fait quel est son chemin. Donc quel dessin géométrique. Donc là, c'est relativement simple. Je définis une série de points qui vont s'enchaîner. Et imaginez-vous que un trait sera tracé entre l'ensemble de ces points. Donc pour faire un carré, c'est relativement simple, hein. Je prends le centre et je fais un plus 5 ici, moins 1, plus 5, moins 1, etc. Et puis ensuite, je lui indiquer un certain nombre de caractéristiques. Exemple, je décide qu'il ne soit pas plein, que ce soit simplement un carré qui soit dessiné ici en vert avec des traits d'une épaisseur de 2 par exemple. Et puis je lui indique un z-order pour être sûr qu'il soit bien devant. Et enfin, dernière opération, je l'ajoute aux éléments de ma carte ici avec juste un add. Donc pensez à tous les scénarios qui pourraient bénéficier d'un tel contrôle. Vous avez des objets, vous avez des personnes, vous avez des véhicules ou autres que vous souhaitez géolocaliser. Une représentation sur une carte permet de communiquer très très simplement avec vos utilisateurs finaux, de bien se comprendre et d'avoir, pourquoi pas, des éléments interactifs. Rien ne vous empêche de zoomer la carte, d'avoir des représentations assez différentes et très interactives qui rendront votre application d'autant plus agréable. Quatrième et dernière démonstration, le Ink Canvas. Alors, le Ink Canvas est disponible toujours dans notre projet Windows Demo. Voici la page dans laquelle nous aurons le code lié au Ink Canvas. Alors, voyons avant toute chose à quoi ça ressemble. Ici, vous voyez juste quelques boutons et puis une page sur laquelle je vais pouvoir m'exprimer. Voilà mon Ink Canvas. Donc là, je l'utilise avec la souris, donc imaginez que j'ai une précision tout à fait modeste. Et bien sûr, je vais pouvoir l'utiliser aussi bien à la souris qu'avec le touch, mais aussi, et bien sûr, avec un stylo. Et là, ça va être hyper intéressant. Alors, voyons quel code il y a derrière tout cela. Ça peut paraître extrêmement compliqué. On imagine un petit peu tout le travail qu'il y a à faire pour faire en sorte d'avoir une expérience complètement fluide. Toutefois, regardez, le travail pour moi s'est limité à cela. J'ai défini un Ink Canvas que j'ai nommé Ink et puis je l'ai positionné dans ma grille. Donc vraiment extrêmement simple de pouvoir instancier ce contrôle sur ma page. Ensuite, ce canvas va me donner accès à un certain nombre de fonctionnalités. Parmi ces fonctionnalités, et il y en a d'autres bien sûr, mais voici un petit extrait. Ici en l'occurrence, je vais faire en sorte de rendre mon Ink Canvas accessible quel que soit le type d'interaction. Donc par défaut, il ne sera accessible qu'avec un stylet. Donc faites bien attention parce que je me suis fait piéger moi-même. J'essayais désespérément d'interagir avec à la souris sur mon PC desktop et puis je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. En fait, il faut absolument que l'on précise ici un Input Device Types sur le Ink Presenter. En gros, le contrôle Ink Canvas est un canvas qui se voit associé avec un Ink Presenter qui lui va gérer l'ensemble de ce qui touche à la partie inking. Donc là en l'occurrence, j'ai fait en sorte de pouvoir travailler avec la souris, avec le stylo et puis le touch. Voilà, donc là j'ai l'ensemble des trois possibilités à ma disposition. Avec cela, ça fonctionne directement, je peux déjà écrire, c'est immédiatement utilisable. Ensuite, vous verrez qu'il existe des fonctionnalités qui vous permettront de sauvegarder le contenu de ce qui a été écrit, de le recharger aussi ici. Vous pourrez manipuler ce qu'on appelle les strokes, donc qui sont en fait les dessins qui ont été effectués. Donc vous pourrez récupérer une collection de strokes, itérer à travers cette collection, pourquoi pas les sélectionner comme je l'ai fait ici, mais vous retrouverez tout un tas d'éléments qui vous permettront vraiment d'interagir et de créer des scénarios tout à fait intéressants. Par exemple ici, je vais demander quel est le rectangle englobant. Donc imaginez à quel point ça peut être intéressant pour par exemple faire une sélection approximative de contenu. Je ferai un trait par exemple sur un texte et automatiquement je peux calculer quel serait le rectangle englobant et donc potentiellement ce que j'ai sélectionné. Je peux indiquer aussi la façon dont il va s'afficher et d'autres fonctionnalités. Là en l'occurrence, je souhaitais supprimer l'ensemble des traits qui avaient été effectués. Et puis, il est possible de reconnaître le contenu qui a été saisi. Donc, imaginez saisir un texte et faire en sorte que ce contenu puisse s'afficher depuis une écriture manuscrite vers une écriture compréhensible par vos algorithmes. Et donc, nous avons à la fois cette capacité à écrire du contenu libre et à reconnaître et à capter le contenu sous forme de chaîne, cette fois-ci. Donc un contrôle Inc, qu'il faut le préciser, et c'est tout l'intérêt, est disponible sur les différentes plateformes. Donc ça c'est la grande nouveauté, c'est qu'il n'est pas cantonné sur la partie desktop, mais vous pouvez aussi le récupérer et l'utiliser dans vos applications pour la partie nouvellement Windows Mobile ou ex-Windows Phone, donc sur smartphone pour être plus précis. Donc je pense qu'il y a encore des jolis scénarios à faire avec les scénarios de Inking, des scénarios professionnels comme par exemple la signature d'un bon de réception de marchandises par exemple, mais aussi pourquoi pas des scénarios ludiques où vous pourriez créer des jeux tout à fait sympathiques qui s'utiliseraient de cette façon-là. Les exemples que nous avons utilisés tout au long de cette vidéo sont disponibles avec 100% du code source dans l'application Windows 10 SDK Demo, disponible sur GitHub avec 100% du code source, toujours sur licence Apache 2.0, ce qui veut dire que vous pouvez en faire tout ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à nous faire part de vos contributions. On a essayé de faire le maximum pour que vous puissiez vite fait mettre les mains dessus et vous amuser avec le SDK Windows 10. Toutefois, il se peut qu'il y ait quelques anicroches, donc n'hésitez pas à nous soumettre vos retours et puis nous essaierons de les intégrer aussi vite que rapide. Donc à vos forks, amusez-vous avec ce projet. Voilà, ce troisième module nouveau contrôle est maintenant terminé. Nous allons passer à la suite avec toujours des nouveaux contrôles, mais cette fois-ci dédiés au design dit adaptatif. Donc comment faire en sorte pour que nos écrans puissent s'adapter aux différents form factors, aux différentes tailles d'écran des appareils sur lesquels nos applications vont tourner. Rendez-vous donc tout de suite pour le quatrième module.